Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde, d'élargir son regard sur soi, une sorte de voyage intérieur, de voyage extérieur à travers les expériences de vie de ceux que je rencontre sur mon chemin. Donc souvent, « Regarde ailleurs » donne la parole à des réalisateurs, des photographes, des voyageurs, sur cette dimension de l'ouverture, l'ouverture à l'autre, le côté interculturel. Mélanie, toi, on se rencontre aujourd'hui pour la première fois, mais on se connaît via les réseaux sociaux, via Internet pour nos travaux respectifs. Je ne sais encore pas grand-chose de toi, si ce n'est que tu travailles sur un film, un documentaire, Première Lune, dont on parlera. Mais avant de parler de ton projet de film, j'ai envie de savoir un petit peu qui tu es et quel est ton lien avec le voyage. À partir de quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Mélanie, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir, Alexandre. Je suis aussi ravie d'être là. Moi, j'ai toujours eu envie de voyager. Quand j'étais jeune, mes parents me mettaient devant Ushuaïa Nature et j'étais une grande fan de Nicolas Hulot et aussi, en fait, de Tipi, qui existait à l'époque, qui était une petite fille qui partait en Afrique. Et du coup, je m'étais toujours dit, un jour, quand je serai grande, je serai un mélange entre Tipi, Nicolas Hulot et Mowgli. Donc, j'ai toujours été hyper attirée, en fait, par les modes de vie autochtones. J'ai toujours été très proche de la nature. J'ai eu une éducation avec des parents très nature. Mon papa était paysagiste. Donc, plongé quand même très régulièrement en montagne. Du côté de mon père aussi, il y a pas mal de montagnards, il y a des guides de haute montagne aussi. Enfin voilà, on a toujours béni dans cet univers-là. Et après, j'ai toujours eu la bougeotte, je tiens pas en place. Donc l'école, c'était pas facile pour moi. On a toujours dit quand j'étais petite que j'étais un garçon manqué. Donc j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver mon féminin dans cet enfant sauvage-là. Et petit à petit, au fur et à mesure en fait que j'ai grandi, évolué, j'ai laissé de plus en plus de place à mon lien avec la nature et avec les animaux notamment. J'avais beaucoup de mal à communiquer adolescente avec les gens qui m'entouraient. J'avais la sensation de pouvoir communiquer plus facilement avec les animaux. Et donc du coup, à partir de là, en fait, j'ai eu envie tout de suite. En fait, j'ai dit à mes parents que je voulais être reporter animalier. Mais à l'époque, on trouvait pas ce qu'il fallait comme école. C'était compliqué. Donc du coup, j'ai fait un bac S option biologie écologie parce qu'il fallait que j'aie le bac pour au moins avoir le bac avant de quitter l'école. Et puis tout de suite après, j'ai cherché en fait à trouver ma voie, mais sans forcément avoir l'envie de me mettre dans une école ou de reprendre des études. Donc j'ai appris la photo par moi-même en autodidacte à 23 ans. Donc en fait, ça a été ma première grossesse qui a été le déclencheur et la magie de la vie qui était en train de naître en moi et cette sensation d'être que je pouvais déplacer des montagnes en étant enceinte et d'avoir un lien encore plus fort à la nature en étant enceinte, etc. Et en fait, en étant enceinte, le papa de mes enfants m'a pris en photo. J'ai trouvé ça magnifique, le fait de me voir dans ces formes-là. Et j'ai commencé à prendre les femmes en photo. Donc voilà, donc j'ai toujours pris les femmes en photo dans la nature, mais au début c'était beaucoup lié à la grossesse, parce que ça parlait de mon propre cheminement. Et puis petit à petit, en fait, je me suis tournée vers le féminin en général, mais plus dans sa nature sauvage, avec vraiment l'envie que la photographie devienne une forme et de thérapie pour la femme, pour qu'elle sorte un peu des conditionnements et des dictats de la société sur tout ce qui est normes de beauté, et aussi en fait qu'elle ait une forme de rituel à travers la séance photo qui la ramène à sa nature et qui vient lui rappeler en fait quelle est la nature et que ce soit marqué sur des images. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
Mélanie, je t'arrête parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu dis et qui m'interrogent, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Donc déjà, tu as assez jeune devenu maman, hein, tu as 3 enfants et tu me dis qu'ils n'ont jamais été à l'école et que tu as voyagé avec eux. Donc tu as fait l'école à la maison. Sur les routes du monde, tu as voyagé en famille avec tes enfants?
Oui, après en fait, on voyageait 3 fois par an. On faisait 2 à 3 fois des voyages par an. Donc il y avait vraiment la dimension l'école à la maison. À la ferme même, et après il y avait l'école sur la route, donc c'était vraiment ça l'idée. Donc les enfants, ils ont appris de pas mal de cultures différentes, c'est pas pour autant qu'ils parlent une once d'anglais, mais ça c'est pas grave, ils ont appris énormément de l'humain, donc c'est vrai que c'est des enfants qui sont très facilement tournés vers tous les âges. Ils ont eu un téléphone pour la première fois cette année parce qu'ils sont allés à l'école. Mais sinon, voilà, on a fait vraiment l'école à la maison au fur et à mesure, en fait, aussi des contrats que j'avais. Et donc, voilà, tout simplement, cette année, ils ont pris leur orientation parce qu'ils ont grandi et que ma fille a 15 ans et demi et qu'elle veut vivre en roulotte et devenir palefrenier. Et je ne sais pas si ça se dit au féminin. Et donc du coup, ben forcément, quand ça commence un peu à se séparer comme ça, le second n'avait pas envie de rester aussi seul à la maison, et le petit troisième est dans une école alternative.
Donc en tant que maman, tu t'intéresses aussi, donc tu parlais à l'appareil photo un peu thérapeutique par rapport aux femmes, la grossesse, le côté féminin, féminin sacré, dont on parle beaucoup aussi aujourd'hui. Donc voilà, parle-moi un petit peu de ce cheminement-là, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses au féminin, et peut-être aussi définir ce que c'est qu'aujourd'hui le féminin sacré, dont on entend énormément parler dans pas mal de réseaux.
Alors moi, je dirais que le féminin, il est sacré par nature. Je pense pas qu'il y ait besoin forcément de l'entourer en fait d'étiquettes, parce qu'après c'est vraiment lié en fait à ce qu'on met derrière les mots et ce qu'on veut y mettre. Donc je pense que ça peut être aussi limitant, et c'est vraiment en fonction de chacun, comme le mot féminin sauvage, comme d'autres personnes qui vont aborder les thématiques du chamanisme, etc. Tout ça, c'est vraiment en fait lié à chacun. Ce qui m'intéresse en fait au féminin, c'est vraiment d'avoir compris, quand ma fille est devenue adolescente, que j'avais vraiment la croyance de ce que je savais pour moi, ce que c'était être une femme. Et pour moi, j'ai eu la sensation d'être une femme le jour où j'étais enceinte. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais complètement coupée, en fait, de mes énergies sexuelles. J'étais complètement coupée, en fait. J'avais pas d'ancrage. J'étais vraiment beaucoup dans le mental, dans l'air, dans la pensée, dans la création, dans l'agitation, dans le faire, et très peu dans l'être. Donc, il y avait très peu de choses qui passaient par mon corps. Et je l'ai vécu à travers ce premier accouchement-là, qui était un accouchement classique en clinique, que j'avais envie déjà de faire à la maison. Et donc pour le deuxième enfant, ça a été là le déclic. C'est qu'en fait, mon deuxième enfant est né à la maison, dans une piscine. Et puis petit à petit, il y a eu un espèce d'éveil en fait sur la globalité de mon corps, la globalité de ce que j'étais. J'étais quand même très très jeune aussi, donc je pense que c'est un chemin. Et puis aussi pas mal de tabous qui sont liés en fait non pas à mon éducation, parce qu'on était quand même assez à la cool à la maison, mais plutôt liés en fait au conditionnement général sur déjà ce que doit être une fille ou ne doit pas être une fille. C'est pareil aussi pour les garçons, et tout ce qui était lié à la sexualité. Enfin moi, ma grand-mère disait par exemple, si je remettais ma culotte en place, elle allait me dire touche pas ça, c'est sale, etc. Donc j'avais vraiment une notion de aussi assez catholique de l'énergie féminine. Et donc voilà, ça a été vraiment un tournant pour moi, cette naissance à la maison. C'était ma naissance à moi, quoi. C'était une vraie prise de conscience. Donc forcément, le troisième aussi, il est né à la maison aussi. Et à partir de là, j'ai eu la sensation que je voulais pas que ma fille, en fait, elle attende autant d'années pour comprendre qu'elle est cyclique, pour comprendre qu'en fait le sang en fait qui circule en elle et ce cycle en fait qu'elle attende pas en fait autant d'années pour vivre en harmonie en fait avec ce cycle là. Et il y avait un mot qui descendait tout le temps, réalisatrice, réalisatrice, faut que tu fasses quelque chose, réalisatrice, réalisatrice. Et je me rappelle de m'auto-flageller en me disant, non mais t'es pas capable, il va falloir que tu réapprennes tout. Je sais plus quel âge j'avais. Ouais, c'était en 2017. Je me dis, non, mais il faut que je réétudie le scénario, etc. Moi, j'avais plus la maîtrise de l'image fixe, mais pas vidéo. Et donc, je me pensais pas capable de faire ça. Mais pourtant, j'avais vraiment envie de faire porter et faire circuler la voix des femmes. Mais justement, pas que la voix des femmes occidentales. Et de voir justement, avec un regard à 360, comment ça se passe ailleurs et pas comment moi j'aimerais que ça se passe. Donc d'embrasser en fait le paradoxe de tout ce qui se passe ailleurs. De pas être dans un mode de pensée binaire sur ce qui doit être fait, sur ce qui est bien, sur ce qui est moins bien, etc.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu as cette révélation quelque part, hein, après ta lutte de sudation, tu te dis maintenant réalisatrice. Donc de photographe, tu fais le choix d'être réelle. Le sujet, bon, on l'a compris, c'est le féminin, les lunes, les premières lunes. On va définir un petit peu ce que c'est. Donc tu vas nous apprendre plein de choses sur ce sujet-là. Avant que tu me parles de ton documentaire, qu'est-ce que c'est être femme ?
Qu'est-ce que c'est être femme ? Waouh ! Qu'est-ce que c'est être femme ? Ben alors, j'ai envie de te dire qu'en fait, être femme, ça dépend de plusieurs perceptions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le être femme de la façon dont c'est perçu par la société. Il y a le être femme dont c'est la réalité biologique. Et puis après, en fait, il y a le être femme qui est purement, pour moi, énergétique et qui n'est pas forcément associé justement à un genre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, en fait, dans une énergie. Donc, moi, je parlerai plutôt d'énergie féminine. Et en fait, pour moi, les énergies féminines, c'est des énergies qui sont plutôt liées, en fait, à la réceptivité, à l'accueil, à l'abandon, au lâcher, ce qui va très bien avec notre capacité à recevoir. Et notre corps est fait pour ça, clairement. Et après, en fait, donc ça, c'est vraiment d'un point de vue énergétique. Après, d'un point de vue culturel, c'est vraiment une histoire de perception, parce que être femme d'un bout à l'autre de la planète, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc c'est pour ça que quand j'avais commencé à écrire mon documentaire, j'avais eu un retour d'une sociologue qui m'avait fait ôter le sous-titre que j'avais mis, c'était « Comment devenir femme ici et ailleurs dans le monde ?» Et en fait, ça soulevait trop de préjugés, de questionnements, le « devenir femme ». En fait, on est intrinsèquement femme quand on est avec un sexe biologique. Enfin, je parle vraiment dans un sens biologique. Et puis après, par exemple, je ne sais pas si tu connais les Inuits, mais chez les Inuits, il y a 4 genres. En fait, c'est un des peuples que j'aimerais beaucoup aller voir. Et eux, ils ne se posent pas toutes ces questions. Nous, on a l'impression qu'on est dans une ouverture, qu'on est dans une forme de libération de vieux schémas, alors qu'en fait ailleurs, en fait, ça a déjà été fait, puis ça n'a pas besoin d'être nommé, donc enfermé dans une nouvelle case. Même si je pense qu'il faut quand même passer sûrement par ce biais là pour après relâcher en fait certains schémas. Mais en tout cas, chez les Inuits, tu as 4 genres: tu as la femme, l'homme féminin et la femme masculine. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Et voilà, il y a des questions, des choses comme ça qui sont intéressantes à recevoir comme information, parce que ça montre bien qu'en fait, le être femme, c'est beaucoup lié en fait à une énergie, en fait, tout simplement. Après, moi j'associe le devenir femme, je l'associe aussi à une forme de statut social en tant que regard de réalisatrice, c'est-à-dire que dans les sociétés, en fait, où je suis allée, enfin les différentes cultures, les jeunes filles deviennent femmes lorsqu'elles ont donc leur première règle, leur premier saignement, et donc les premières lunes, ça marque l'entrée dans le statut de femme. Donc elles ont souvent pas le droit de faire certaines choses qu'elles ont le droit de faire après, quand elles ont eu leur première règle, et inversement, il y a certaines choses qu'elles ont eu le droit de faire avant qu'elles n'ont pas le droit de faire après, quand elles ont eu leur règle. Comme par exemple au Sri Lanka, c'est une célébration comme un mariage, c'est un mélange entre de l'astrologie, de l'ayurveda, du bouddhisme, enfin, c'est très complexe à comprendre. Par contre, la jeune fille, quand elle a ses premières règles, elle n'a plus le droit de sortir sans son frère, voire une amie, parce qu'on ne sait jamais qu'elle ait des rapports avant le mariage. Donc elle a une forme de célébration, mais qui, du coup, paradoxalement, vient... Enfin voilà, c'est pour ça que je parlais de ne pas, en fait, avoir une utopie, en fait, des célébrations. C'est qu'il y a toujours, en fait, une forme de yin et de yang et d'équilibre, en fait, entre ce qui est positif, ce qui est amené et ce qui peut être retiré.
Parce que célébrer d'une part, mais finalement enfermé de l'autre.
Exactement. Et puis, inversement, il y a des sociétés qui isolent les femmes qui ont leurs règles. Et moi, j'ai eu d'autres versions hyper intéressantes où les femmes sont heureuses d'être isolées parce qu'elles ont leurs règles et sont considérées impures. Parce que c'est les seuls 5 jours du mois où elles ne font pas les tâches ménagères. Elles ne vivent pas l'isolement comment nous, on le perçoit. Et en fait, c'est vrai que c'est, cette recherche de performance, en fait, accueille pas le cycle féminin. Et alors qu'en fait, ailleurs dans le monde, ben, on va dire, ben non, elle est impure, donc elle va être isolée. Alors, je parle pas de certaines filles qui sont vraiment enfermées avec des barreaux, etc. Mais par exemple, dans les tentes, je sais qu'au nord du Mali, il y a les Touaregs du nord du Mali, dans une plaine, en fait, où les jeunes filles sont dans, et les mères et les tantes, etc., sont dans une tente quand elles ont leurs règles pendant 8 jours. Et c'est 8 jours, en fait, où elles sont au repos. Et ça leur permet de se ressourcer, d'être disponibles ensuite. Donc voilà, il y a toujours y a la balance à faire.
Donc ton documentaire Première Lune, ton livre aussi Première Lune, déjà cette expression Première Lune, d'où est-ce que ça vient? Parce que nous on parle de règles en France, d'où ça vient les Premières Lunes? Ce qui est beaucoup plus poétique que d'avoir ces règles.
Oui, lune ça vient vraiment plus de l'Amérique du Nord. J'ai entendu ce terme en fait, les cérémonies en fait de Première Lune, ou les cérémonies de lune, ça vient plus du Canada. Après, je ne sais pas, aux États-Unis, je pense que si, je crois qu'ils appellent ça... Non, je crois que c'est First Period, je ne sais plus. Mais en tout cas, les autochtones utilisent en fait le mot lune pour parler des règles.
En lien avec le cycle lunaire ou rien à voir?
Alors, il y a un lien avec le cycle lunaire parce qu'il y a aussi ce côté phase, comme il y a avec les saisons, avec les 4 phases de la lune. Après, il y a eu des études qui ont été faites sur... La synchronicité en fait entre les phases de la lune et les phases du cycle féminin qui n'est pas complètement prouvée, mais l'étude qui a été faite, elle a été faite sur des femmes qui ne sont pas assez à la lumière du jour. Donc moi je suis assez critique en fait sur ça, parce qu'en fait l'étude elle est sortie pour prouver que en fait c'était une croyance populaire que les femmes elles avaient soit leur lune plus à la pleine lune, soit plutôt en fait pendant la nouvelle lune en fonction des énergies de chacune ou en même temps. Et en fait cette étude qui a essayé de prouver ça, en fait ils se sont rendus compte que sur les 1000 femmes qui ont été étudiées, en fait, la plupart du temps, elles étaient 8 heures par jour enfermées. Et donc, y a un autre groupe qui a étudié des femmes qui sont plus à la lumière du jour. Et forcément, en étant enfermées avec des néons et des lumières artificielles, voilà, il faut quand même être synchronisé déjà avec la vie naturelle, la lumière naturelle, avant de pouvoir avoir cette vision-là, en fait, je pense que voilà, il faut être vraiment vivre au contact de la nature. En étant enfermé, je suis pas sûre que ça fonctionne. Enfin, ouais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mélanie Mello, donc tu réalises ton documentaire, ton premier documentaire, Première Lune. Donc là, maintenant, il s'agit d'identifier différents peuples du monde pour aller rencontrer ces jeunes femmes, ces jeunes filles. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu choisis les cultures, les religions, les traditions dans lesquelles tu choisis d'aller faire tes images?
Déjà, j'ai creusé beaucoup de textes. Du coup, en fait, comme j'ai repris des études libres maintenant, j'ai étudié en fait tous les textes universitaires où je pouvais voir qu'il y avait des rituels de puberté, donc des fois filles, des fois garçons. Et après, il y a des rituels, parce qu'en fait, c'est encore plus précis que ça, c'est qu'en fait, ce que je recherche, c'est des rituels qui honorent quand même le féminin, les énergies féminines, parce que tu as beaucoup plus de rituels chez les garçons que chez les filles, de rites de passage. Et en fait, ma recherche, elle consiste en fait, elle est encore plus précise que ça. Parce qu'en fait, les premières lunes, c'est pas uniquement le sujet qui m'intéresse. Ça pourrait être tout à fait autre chose. Mais ce qui m'intéresse avant tout, dans la recherche, c'est pour ça que ça peut paraître encore plus complexe. C'est qu'en fait, souvent, le rite de passage, c'est une façon pour le parent, la tante, le grand-père, la grand-mère de revendiquer une culture qui est en train de disparaître. Et en fait, tu peux, par exemple, là, en août, je pars au Canada et la mère, en fait, qui va faire le rituel à sa jeune fille, qui est d'origine Cree, le fait parce qu'elle sent que sa fille, se déracine en fait. Et avant, les autochtones, les peuples natifs de tout pays, étaient déracinés en fait par l'assimilation religieuse. Et maintenant, moi, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est une forme d'assimilation consumériste qui fait qu'en fait, les peuples sont complètement déracinés. Alors, t'en as qui arrivent très, très bien à associer la contemporanéité et la culture et la tradition. Et ça, je trouve ça génial. Ce qui vont avec le mouvement en fait, de la vie, tout en arrivant à utiliser des fois en fait des groupes Facebook pour se retrouver dans des endroits pas possibles en fait, et ça voilà, ça c'est génial, mais en fait le rituel c'est vraiment une façon en fait de transmettre la culture, donc c'est souvent bien plus important en fait pour la famille que pour la jeune fille qui le vit. C'est souvent une projection. En tout cas, le recul que j'ai actuellement, c'est ça. C'est pour ça que mon regard, il a changé au début, en fait, dans le regard que j'avais pour mon film. En fait, c'était vraiment de faire des recherches de jeunes filles qui vont faire différents rituels et de faire un focus sur les jeunes filles. Et maintenant, le focus que je fais, c'est plutôt sur pourquoi la jeune fille, elle va le faire. C'est qui est derrière ? C'est quoi qui est important ? C'est quoi le lien entre toutes ces jeunes filles ? Et en fait, c'est vraiment la réappropriation culturelle, en fait. C'est vraiment ça qui unit les 5 jeunes filles que je vais filmer. Donc là, j'en ai filmé... pour l'instant, je vais filmer une jeune fille en France. Parce qu'en fait, je veux faire un espèce de parallèle. En fait, en gros, c'est le point de départ. C'est la jeune fille en France qui vit à travers son rituel New Age un tas de rituels qui sont pas du tout liés à nos racines. Et en fait, en gros, je vais remonter et retisser en fait les différents fils. Pourquoi est-ce qu'il y a un tambour là ? Pourquoi est-ce qu'il y a un son rebozo ? Et donc, en fait, tout ce qui est pratiqué au jour d'aujourd'hui, en fait, dans les rituels qui sont faits, donc New Age, ben en fait, ça ne vient pas de chez nous. Mais il y a, hein, chez nous, il y a eu, il y a très longtemps, 3000 ans avant Jésus-Christ, en fait, quand il y avait encore le druidisme originel et qu'il n'y avait pas l'assimilation chrétienne, il y avait des célébrations celtiques qui existaient, qui ont après été... qui ont disparu en fait, mais il y avait ce vrai équilibre entre le féminin et le masculin qui était ritualisé. Et donc en fait, au jour d'aujourd'hui, ben en fait, on picore pour pouvoir rendre sacré des moments, parce qu'on a perdu ce sens-là en fait du sacré, qui est très important pour moi, parce que le sacré amène la présence, le rituel amène la présence dans un passage de vie. Je pense qu'en fait on n'a pas assez de rituels pour ralentir en fait, et c'est important de faire ça. Donc du coup, ces sources d'inspiration là, voilà, elles viennent souvent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Asie, voilà, après il y a aussi des pays d'Afrique. C'est plus tourné, il y a un côté un peu plus festif mais aussi ritualisé.
Donc c'est vraiment aussi remettre un peu de conscience et de sacré dans tout ça. Exactement. C'est vrai qu'on banalise beaucoup dans notre quotidien, on se rend plus compte. Tu parlais aussi de cycles, de saisons, des 4 cycles de la femme. On est vraiment dans une forme de mode de vie où on se déconnecte complètement de nous-mêmes en fait finalement. Donc là c'est vraiment y remettre un peu de sens et de sacré et de conscience.
Exactement, en fait on fête Noël, on fait la fête des mères, Pâques, voilà, il y a plein de... on fête plein de choses en fait, mais les plus grands passages de la vie en fait ils sont pas célébrés. C'est très rare qu'on célèbre la naissance d'un enfant en tant que célébration rituelle. C'est très rare qu'on célèbre le passage de la puberté. C'est très rare qu'on célèbre le passage de la ménopause, alors encore moins. Ça, c'est mon prochain film. Mais voilà, c'est vrai que les passages, en fait, les passages de vie permettent de se sentir inclus dans la famille aussi dans ce passage. C'est hyper important. Ça permet, en fait, de passer de l'individu au groupe. Et ça, c'est aussi très important. Et donc, voilà, ma recherche, donc pour revenir à la question initiale, parce que je suis partie en arborescence, c'est qu'en fait, je cherche donc des rituels qui célèbrent le féminin. Donc, j'ai creusé par des textes universitaires. Et la plupart que j'ai trouvés, c'était dans des lieux un peu plus dangereux où je ne pouvais pas forcément me rendre. Donc j'ai creusé. Et c'est marrant parce que ça s'ouvre quand même petit à petit aussi pas mal par contact, par recherche, par bouche à oreille. Puis des fois, il y a des écueils où ce n'était pas du tout ce que je pensais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de l'aventure que je vis, parce que c'est vraiment quand même une aventure humaine et une aventure physique aussi, d'endroits où je vais, c'est qu'en fait il y a d'autres sujets, il y a des sous-dossiers qui sortent. Par exemple, j'ai filmé un rituel en fait à La Réunion d'une jeune fille qui avait des origines malgaches et sa mère était tamoule. Donc pareil, c'était un peu, c'était mixé, mais du coup c'était leurs racines. Et en fait le rituel s'est très bien passé, mais la grand-mère organisé cette célébration-là. Donc j'ai eu par bouche à oreille Echo qui avait une célébration. Donc ça s'est vraiment fait tout par bouche à oreille. Et elle l'organisait en fait parce que son vif intérêt ce jour-là, c'était de réunir toutes les femmes de sa vie, de son entourage, pour libérer des tabous liés à l'inceste. Et donc, en fait, le cercle de parole et le rituel s'est transformé en non-dits qui sont sortis après, des fois, 60 ans d'existence. Donc voilà, il y a des sous-thématiques qui me demandent une réadaptation constante.
Ce que je trouve aussi incroyable dans ton projet, c'est que là, on rentre dans l'intime et filmer ça en tant que réalisatrice, trouver des gens qui ouvrent les portes de leur vie personnelle et privée, c'est pas évident.
Moi, en fait, l'idée, c'est de respecter la pudeur des gens. Je prends ce qu'on me donne. Et pour moi, en fait, le plus grand travail en fait, d'un réalisateur ou d'un photographe, c'est d'abord en fait, d'avoir la porte ouverte. Si la porte, elle n'est pas ouverte, ça ne sert à rien de la forcer, en fait, ou de passer par la fenêtre. Ça, c'est vraiment, pour moi, juste sentir l'accueil. Et puis, si c'est pas à cet endroit-là ou si c'est pas de cette forme-là, je sais qu'en fait, ça s'ouvrira d'une autre façon. J'ai bien vu qu'en fait, la confiance et le lâcher, c'était ce que j'avais appris aussi à travers mon travail qui, au début, j'étais très, très contrôlante et idéaliste sur ce que je voulais, en fait. C'était une horreur et surtout très utopiste aussi en lien avec les autochtones. Et je me rappelle avoir téléphoné, je sais pas si tu connais Sabah Ramani. Et en fait, Sabah Ramani m'avait interviewée pour le magazine Kaizen. Et en fait, elle m'avait dit, Mélanie, si j'ai un conseil à te donner, n'idéalise pas les autochtones. Et moi, j'étais partie avec une espèce d'utopie. Waouh, ils sont... Voilà, enfin, j'étais encore dans un regard à 45 degrés, même pas à 180. Et puis après, petit à petit, avec l'anthropologie, avec la vraie étude de texte, avec des critiques de mes textes qui ont été faits par des profs, on sentait dans mes textes qu'il y avait vraiment une forme de dogmatisme, en fait, et d'idéalisme. Et donc, j'ai pris beaucoup, 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 beaucoup de recul. Et puis après, c'est vrai que c'est le voyage en Namibie aussi qui m'a, chez les Himba, qui m'a vraiment, en fait, fait accepter et embrasser le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y avait cette sensation d'arriver en Namibie, d'être capable de faire le tailleur et de repartir, de savoir faire le grand écart intérieurement, quoi. C'était vraiment ça. Et par rapport aux rencontres, aux femmes, aux rituels, aux liens avec l'argent aussi, parce qu'ils sont quand même dans les... Enfin, tu sais qu'ils sont dans les sociétés marchandes depuis 1920. Et puis, il y a aussi une forme d'idéalisation, en fait, sur leur rapport à l'argent, sur... après, voilà, il y a plein de choses qui se font par rapport au tourisme, etc. Et donc, moi, c'est vrai qu'aller là-bas, ça a été vraiment une ouverture pour moi, pour me dire, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Et juste, il y a tout qui y est, quoi. Et puis, voilà.
Mais là, tu dis quelque chose d'hyper intéressant, parce qu'on est dans cette quête d'authenticité. C'est le mot qu'on entend souvent aussi. Et on a tendance, effectivement, à idéaliser, parce qu'on se rend bien compte qu'on atteint la limite d'un système qui marche sur la tête. On veut aller vers autre chose, changer, se reconnecter à la nature, à l'environnement. Et c'est souvent le message des peuples racines ou des peuples premiers qu'on idéalise. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien de le mettre en avant, ne pas idéaliser qui que ce soit, finalement, même son voisin ou son patron, parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'il se passe derrière. Donc arrive à faire un pas de côté pour avoir une vision plus globale.
Même s'il a 30 000 abonnés sur Instagram. C'est vrai que c'est ça qui est devenu plus important en fait au jour d'aujourd'hui. C'est en fait, on est dans une forme d'apparat constant. En fait, et on montre très peu sa vulnérabilité. Et encore, en fait, quand la vulnérabilité est montrée, elle est aussi mise en scène. Et donc, en fait, tout est sous contrôle. Il y a vraiment ça. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant avec les autochtones, moi, ce que j'adore, en fait, par exemple, quand je vais chez les Himba, c'est quand je les vois s'engueuler ou se battre. Enfin, ça m'est déjà arrivé de les voir se mettre un peu dessus, mais c'est pas très, très violent. Mais en fait, ils sont comme ils sont. Ils se disent... En fait, il y a... Comment dire? La vérité m'apparaît être exprimée au fur et à mesure. Et je pense qu'en fait... Être dans la vérité de ce qu'on est au fur et à mesure, c'est ce qu'il y a de plus libérateur et de meilleur pour le corps et la santé. Et puis d'être capable de se regarder en entier aussi, en fait, hein, parce que ça, c'est vraiment important. Et donc, voilà, c'est vrai que là, je dévie un peu, mais en tout cas, c'est aussi ce que j'ai envie de faire véhiculer comme valeur, en fait, dans le film. C'est en fait, je veux aussi parler, en fait, de mes difficultés que j'ai eues. Ce que je suis en train de te dire, en fait... Parce que je veux quelque chose de poétique, mais je veux surtout quelque chose en fait qui qui s'affranchissent en fait des limitations, des barrières, de l'idéalisme, de tout ça. Donc j'ai envie d'être brute, quoi. C'est vraiment ça. Et brute, mais ça n'empêchera pas que ce soit poétique et honorant pour les femmes. C'est, voilà, c'est vraiment ça.
Mélanie, le documentaire s'appelle « Les premières lunes ». Mélanie, est-ce que tu aurais peut-être une histoire, un conte populaire à nous raconter sur les premières lunes?
Oui.
Une anecdote peut-être que tu pourrais partager?
Oui. Oui, j'ai une anecdote qui me fait souvent rigoler. C'est qu'en fait, au Moyen-Âge, lorsque les femmes en fait, avaient leurs premières règles, elles étaient tellement... Elles étaient vraiment considérées un peu comme des sorcières. Enfin, elles pouvaient faire peur. Et en fait, les hommes avaient tellement conscience de ce pouvoir destructeur qu'elles pouvaient avoir pendant les règles qu'à un moment, à une période du Moyen-Âge, ils les faisaient traverser les champs pensant qu'en fait la récolte allait être bonne parce qu'elles allaient tuer tous les parasites en passant en fait. Et ça, c'est une anecdote qui me fait souvent rire, que j'aime bien raconter. Voilà. ça fait partie de tous les conditionnements qu'il peut y avoir autour des règles, comme le fait de rater des œufs en neige, de ne pas être capable de faire monter des œufs en neige. Ça fait partie des croyances populaires. Quand t'as tes règles, tu peux pas faire monter des œufs en neige. Beaucoup de femmes se reconnaîtront là-dedans. Ça, c'est. Ouais.
Merci beaucoup, Mélanie.
Merci à toi, Alexandre, de m'avoir accueillie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.